RCF.
RCF, Thierry Delis.
. 18h10, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur les antennes de RCF Reims-Ardenne, RCF Cœur de Champagne. Comme chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi à 18h10, et nous terminons cette semaine avec le magazine régional. Il est là, il est en forme, c'est Alexis Claudretz pour nous présenter cette dernière édition de la semaine.
Quelle belle passe décisive! Merci Thierry de nous passer le relais effectivement pour le 18-19 en Champagne-Ardenne. 50 minutes d'information, 50 minutes de balade, de découverte à travers notre beau territoire. Dans quelques instants, nous serons avec le professeur Jacques Cohen pour sa chronique d'actualité. Il nous parlera de l'UNRWA à Gaza, un rouage de l'État totalitaire du Hamas. La problématique peut paraître compliquée, vous allez avoir tout le décryptage donc dans quelques instants. Cathy Nina, un maire qui nous parle, elle est maire de Grenelle, une commune forestière dans le département des Ardennes, proche de Charleville-Mézières, presque frontalière avec la Belgique. Cathy Nina qui a fait plusieurs mandats, d'abord au conseil municipal, puis ensuite comme première adjointe, avant d'être maintenant maire de sa commune pour la première fois. Elle est aussi conseillère départementale du département des Ardennes. Les Ardennes qui seront à l'honneur également à l'intérieur du magazine régional, puisque l'on présentera la nouvelle édition de la célèbre course cycliste du circuit des Ardennes. Elle se tiendra au mois d'avril, mais on commence à avoir quelques petites informations à ce sujet. Dans deuxième partie d'émission, nous ferons des rencontres avec des personnes que vous connaissez bien, notamment Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, notamment aussi Patrice Valentin, qui est maire d'Esternay et président du pays Brie et Champagne. C'est une promenade et une rencontre qui nous sera proposée par Christian Lanciot. Et puis, on ira aussi à la rencontre de Sylvie Devanne, qui est responsable de la vie associative à la Ligue de protection des oiseaux en Champagne-Ardenne. Elle a plusieurs rendez-vous à nous proposer dans les semaines à venir. Ils ne sont pas encore tout à fait prêts, mais on le retrouvera tout au long de cette édition, évidemment. Jean-Pierre Benoît, que vous connaissez bien, en chef d'orchestre, nos stagiaires à la rédaction, Mélissa Tavares, qui nous proposera la météo, Sacha Lélès, qui après 3 jours de stage passé à nos côtés au sein de la rédaction de RCF Reims-Ardenne, lui nous présentera l'agenda des sports. Ça fait quand même un beau programme pour faire travailler tout le monde ce vendredi soir jusqu'au bout, jusqu'à 19h. On maintient tout le monde en forme et dans les starting blocks. Voilà pour le sommaire de ce vendredi. Il était plutôt long et pourtant on en a des choses à vous dire. Alors on va attaquer cette fois, comme tous les vendredis, on ouvre par la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen qui est au téléphone avec nous. Bonjour. La chronique d'actualité avec le professeur Jacques Cohen en ligne avec nous par téléphone. Professeur, bonjour.
Bonjour.
L'UNRWA à Gaza, un rouage de l'État totalitaire du Hamas. C'est l'objet de votre chronique d'actualité aujourd'hui. Si l'on fait une photographie, qu'est-ce que c'est exactement l'UNRWA à Gaza? C'est vrai que c'est un sujet qui ne parle pas forcément à tout le monde, Jacques Cohen, et moi le premier, je dois bien le dire.
Voilà, à Gaza et ailleurs, mais c'est surtout à Gaza que l'UNRWA officie. C'est l'organisme des Nations Unies qui s'occupe de l'assistance aux réfugiés, et donc qui finance de fait ces réfugiés, et dans le cul, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, etc.
Et ces financements ont du plomb dans l'aile actuellement.
Voilà, c'est payé par différents États, cette agence, et il y a quelques particularités. Là d'abord parce que la plupart des donateurs occidentaux viennent de suspendre leur aide au motif, j'allais dire au prétexte, que certains membres de l'UNRWA ont été participants identifiés par les services israéliens pour les massacres de civils du 7 octobre. Ce qui est à revoir, bien évidemment, le fonctionnement global de l'UNRWA posait problème depuis longtemps et personne ne voulait le regarder, et ces massacres ont conduit à une raison d'arrêter pour les États occidentaux de financer. C'est une structure qui est en fait un rouage de l'État du Hamas. L'UNRWA paye abondamment pour des camps de réfugiés qui ne sont plus des camps depuis très longtemps, mais des quartiers de telle ou telle ville, parce qu'elle paye les réfugiés, bien sûr, elle aide les réfugiés à vivre, mais ce ne sont plus des réfugiés, ce ne sont donc même plus des enfants de réfugiés, ce sont des petits-enfants de réfugiés. Donc c'est aussi une façon de faire perdurer un problème que de considérer que pour X générations, les Nations Unies doivent financer la diaspora. Ce régime blanc pourrait dire que les Israéliens auraient beaucoup gagné à être payés depuis la destruction du temple, s'il y avait eu le même raisonnement sous Titus ou Siadria. Mais passons à des choses malheureusement plus sérieuses. L'UNRWA n'est qu'un rouage du financement par la communauté internationale, si l'on peut dire, de l'État Hamas. Alors cet État du Hamas, il est parfaitement totalitaire. De même qu'il n'y a pas de journaliste indépendant, c'est exactement comme celui de l'agence TASS dans les années 30. Chaque journaliste occidental qui arrive sur place est flanqué d'un journaliste avec quatre guillemets local, lequel est responsable de ses articles. C'est-à-dire que s'il publie quelque chose qui ne plaît pas, si ce journaliste réussit à interviewer des gens qui disent ce qu'ils pensent, ce qui est très peu probable, eh bien c'est le fixeur qui va être puni. Et les punitions là-bas ne sont pas en travaux d'intérêt général. Donc, un système totalement totalitaire, si l'on peut dire. Pour l'UNRWA, il y a un deuxième élément, c'est que l'UNRWA est quasiment la seule agence des Nations Unies qui se débrouille pour ne pas avoir de réserve. Elle a une politique de financement au jour le jour et pleurer sur le fait que, à la moindre interruption, elle ne peut plus rien faire d'avoir un chantage permanent à son activité, alors toutes les autres agences ont un matelas financier de fonctionnement. L'UNRWA, délibérément, n'a pas de trésorerie. Alors, comment fonctionne cette aide de l'UNRWA? On a l'impression, relativement naïve ou par les photos, que ce sont des camions puis des sacs de farine qui sont donnés aux gens. Mais c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, les donateurs payent, bien évidemment, et l'UNRWA transporte. Éventuellement, l'UNRWA achète, ce qui permet déjà une petite marge. Quand, pour le cas de Gaza, des camions rentrent, eh bien, le Hamas prélève des droits de douane. C'est-à-dire que ce sont des cadeaux, mais qu'on fait payer des droits sur les cadeaux. Et ensuite, étape suivante, ils ne sont pas distribués gratuitement à la population. Ils sont vendus par l'intermédiaire du Hamas. C'est-à-dire qu'il vend ce qu'il a touché gratuitement et qu'il a déjà taxé. Sauf que depuis quelque temps, depuis l'intervention israélienne, il y a des endroits où la population se rebiffe et attaque, pille les camions pour éviter ce double ou triple pillage. Mais malheureusement, tant que la population gazaoui est mélangée aux combattants réciproquement parce que les Israéliens n'ont pas voulu accueillir les civils, ni les Égyptiens d'ailleurs, malheureusement, le Hamas va reprendre peu à peu le contrôle de cette population parce que c'est une force armée et totalitaire et qui n'hésite pas à battre quiconque n'est pas d'accord. Donc, on a un déversement très considérable et l'argent qui passe par les Émirats Arabes Unis ou surtout par Doha est également versé, alors de façon directe ou indirecte via l'autorité palestinienne qui paye des fonctionnaires de Gaza, lesquels sont éventuellement les écoles de l'UNRWA, mais sont également surtout le système de santé. Et on obtient un système d'ailleurs extrêmement perverti. Je ne sais pas si vous avez vu partir des images, le matériel de ces hôpitaux est impeccable. Il est occidental, il est moderne, etc. L'activité de soins, outre le problème de l'activité de guerre, donc d'être débordé à ce moment-là, l'activité de soins semble avoir longtemps été confrontée à un plafond de verre qui aboutissait à ce que les organisations de gauche israéliennes fassent sortir par exemple les enfants pour qu'ils soient soignés en Israël quand ils avaient une pathologie relativement grave. Un plafond de verre parce qu'il ne suffit pas de mettre de l'argent dans un système de santé, il faut aussi sélectionner les compétences et les développer et éliminer les incompétents. Chose que nous ne faisons pas forcément non plus très bien. Moyennant quoi, il y a un plafond de verre sur la qualité des soins tel qu'on a pu le voir concernant plusieurs otages israéliens. Donc, on voit un pays qui reçoit énormément d'argent et l'attitude des Occidentaux est de considérer que par ruissellement, ça finit par développer, même s'il y a beaucoup de détournements en cours de route. Alors c'est en partie vrai, ou du moins c'est ce que le Hamas a craint. Je crois qu'une des raisons principales de l'attaque du Hamas, c'est que l'État mafieux qui vit par clientélisme et de la pauvreté, à force de ruissellement, à force par exemple de construction immobilière d'assez belle qualité, risquait de ne plus fonctionner comme il faut. Parce que la pénurie est indispensable au fonctionnement mafieux. Si chacun peut gagner sa vie honnêtement, aucune mafia ne peut continuer à prospérer, contrôlant la population, qui s'en débarrasse. Et donc là, il y avait un risque. Les Israéliens avaient d'ailleurs commencé à donner des permis de travail légaux en Israël pour une partie de la population, pour plus d'un mille personnes. Les permis de la journée et non pas de la nuit devaient, plus les illégaux comme en Cisjordanie, devaient commencer à croître et embellir. Et le Hamas y a vu un grand danger pour lui. C'est-à-dire que la tactique de Netanyahou, d'une insertion dans l'économie israélienne du Hamas contrôlant la banque de Gaza, représentait un danger réel de dissolution du système mafieux, même si une grande partie était encore largement détournée. Une petite partie finissait par atteindre la population. Donc ça, le Hamas a considéré que c'était plus la peine, qu'il fallait surtout arrêter ça parce qu'il allait perdre de pouvoir à ce petit jeu. Et effectivement, la population de Gaza trouvait que c'était beaucoup plus simple d'aller travailler en Israël que de crever la faim au nom d'un retour hypothétique dans un état mythique que chassant les Israéliens de la rivière, c'est-à-dire du Jourdain jusqu'à la mer.
Jacques Cohen, vous nous présentez pas mal d'éléments, vous avez certainement peut-être encore un ou deux à présenter, mais le temps passe toujours très vite. Toutes ces choses que vous nous présentez, c'est quand même pas une nouveauté, professeur. Ça veut dire que le système a été accepté par une bonne partie du monde.
Exactement. Les gens, les pays occidentaux préféraient regarder ailleurs, continuer à payer pour des réfugiés de la troisième génération, voire bientôt plus. Mais le changement d'attitude du Hamas décidant de prendre la ligne dure d'une organisation terroriste d'une part et exterminatrice pogromiste d'autre part, plus l'attaque, non pas seulement d'Israël, mais des communications commerciales internationales avec la paralysie de fait du canal de Suez, a fait considérer aux Occidentaux qu'il fallait mettre un frein à cela, avec des sanctions qui sont de fait financières. Donc après, il y a beaucoup d'autres aspects de cette crise, malheureusement, mais c'est déjà un élément intéressant. Il ne semble pas que le système de l'UNRWA puisse continuer indéfiniment à être un outil d'éducation, de propagande islamiste radicale et de détournement financier de ce que donne la communauté internationale.
Merci, professeur Jacques Cohen. On avait bien compris que vous aviez encore pas mal d'éléments à nous donner, notamment sur la première partie de l'exposé. Pour tout cela, on invite nos auditeurs à rejoindre votre blog jhmcohen.com. À très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Toujours sur RCF, Reims-Ardennes, RCF, Cœur de Champagne. On est ensemble jusqu'à 19h. On avait presque perdu l'habitude ces derniers jours avec des émissions exceptionnelles que vous pouvez d'ailleurs retrouver si vous les avez manquées dans la rubrique programme sur le site rcf.fr. Des émissions exceptionnelles avec Vincent Stanek, recteur de l'Académie de Reims, avec Arnaud Robinet, maire de Reims et président du Grand Reims. Cependant, on ne les a pas oubliés. Vous le savez, le rendez-vous aux alentours de 18h20 dans le magazine régional. Du lundi au vendredi, lorsqu'il n'y a pas ces programmes exceptionnels que je présentais, eh bien évidemment, c'est des maires qui nous parlent, les maires de nos communes, évidemment. Et aujourd'hui, on prend la direction des Ardennes avec Cathy Nina, qui est maire de Grenelle, au micro de Jean-Pierre Benoît.
Cathy Nina, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que c'est pour vous l'occasion, peut-être, de présenter votre commune Gernelle dans le département des Ardennes ?
Oui, je vais présenter un petit peu ma commune. Donc, c'est une commune, une petite commune rurale de 325 habitants environ. On est situé à peu près à 8 km de Charleville-Mézières. Notre commune est quand même une commune un petit peu forestière, pas très loin de la Belgique. On a pas mal de balades à faire au niveau de notre village. Voilà. Pour moi, c'est un premier mandat en tant que maire. Les mandats précédents, la première fois, j'étais conseillère municipale, ensuite première adjointe, et là, je me suis retrouvée donc maire de la commune. Voilà.
Et je crois aussi par ailleurs, mais c'est une autre émission qu'on fera avec vous dans d'autres cadres, vous êtes aussi conseillère départementale des Ardennes.
Oui, je suis conseillère départementale du canton de Villesmeuse avec Jérémy Dupuis, ainsi que vice-présidente du CIVOM des Balcons des Sources. Voilà.
Alors Gernelle, à quelques kilomètres de Charleville-Mézières, bon, vous êtes maire, c'était quand même un peu dans votre ADN, comme on dit, vous avez toujours été un peu motivé pour cette fonction, on est venu vous chercher, enfin, ça se passe comment ?
Ben, la tout premier mandat, si vous voulez, le maire est venu pas me chercher moi spécialement, plutôt chercher mon mari. Et en fait, mon mari n'avait dans son emploi du temps, n'avait pour son travail, n'avait pas beaucoup de temps. Donc, le maire m'a demandé si je voulais être conseillère municipale. Voilà, ça s'est passé comme ça.
Cette commune de Gernelle, quels sont ses habitants ? Il y a des retraités, il y a des jeunes, il y a peut-être des gens qui viennent de Charleville-Mézières et qui sont à l'heure actuelle, qui aiment bien la campagne. Comment ça se passe ?
C'est une commune où on avait quand même pas mal d'anciens. Maintenant, on a quelques constructions et on a quand même pas mal de jeunes qui viennent de la ville, on va dire, et qui viennent s'installer dans notre village. Voilà.
Alors, aujourd'hui, votre commune, donc 300 habitants, et vous-même en tant que maire, vous êtes beaucoup sollicité. D'ailleurs, il y a des maires et même des jeunes maires qui hésitent, ou même des maires plus âgés, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail finalement. Il y a beaucoup de responsabilités, plus qu'on ne le pense.
Ben, plus qu'on ne le pense, parce qu'en fait, on est en direct avec les habitants, donc sollicité à tout moment, si vous voulez, parce que en fait, nous, on n'a pas de service particulier, à part ma secrétaire, bon, qui fait un gros travail au niveau de la commune, et ça, je l'en remercie. Et les gens vous appellent directement pour quoi que ce soit des problèmes de voisinage, des chiens qui aboient, des horaires pas respectés. Ensuite, on a pas mal aussi de dépôts sauvages aussi maintenant avec les déchetteries. Maintenant, dans les déchetteries, il faut une carte pour entrer dans les déchetteries. Donc, les gens ne s'embêtent plus et puis font pas mal de dépôts sauvages dans les villages, on va dire. Voilà.
Alors, c'est vrai qu'on peut se dire aussi que les communautés de communes, par exemple aussi Ardennes Métropole, ont changé quand même un peu la donne. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que le maire ou la maire est toujours patron chez elle ?
Plus ou moins, on va dire. Plus ou moins, on va dire. Parce que tout ce qui est, on va dire, construction, choses comme ça, on passe par les services d'Ardenne Métropole. Hein. C'est eux qui instruisent les dossiers. Bon, on a beaucoup, beaucoup moins de... Enfin, on est moins responsable, enfin, responsable, entre guillemets, de la commune. Hein. Moins de pouvoir, on va dire.
Mais n'empêche que les habitants, ils vous connaissent. Et quand ils ont quelque chose à demander, ils vont demander... Vous êtes interpellé, voilà, c'est vous qui...
Directement.
Hein, ça, c'est vous êtes la première personne.
Directement, hein, par exemple. Je vois au niveau de l'eau, par exemple, l'eau... C'est le service d'Ardenne Métropole qui s'en occupe, mais on donne des numéros, on a un petit journal local, on note les numéros dessus, mais les habitants téléphonent directement. Pour ainsi dire, ils ont tous mon numéro de portable. Hein. Voilà.
Alors, quel type de demande en général on vous fait des questions qui sont formulées par les habitants? Souvent, c'est des demandes un peu personnelles d'ailleurs.
Oui, c'est souvent des demandes un petit peu personnelles. Bon, après, les procédures à suivre au niveau de terrain, par exemple, les personnes qui veulent refaire une toiture ou des choses comme ça, demandent, alors qu'on peut aller directement, on va dire, sur des sites, sur le site de la commune et puis récupérer les documents. Mais bon, il faut être, il faut être au service des gens.
Alors, des demandes, des requêtes, des questions. Est-ce que avec Gernel... indépendamment du canton, est-ce que vous avez des projets en cours à plus long terme, à court terme, avec votre conseil municipal?
Oui, alors à court terme, là, on a prévu, là, le dossier est déjà monté, de refaire la toiture du préau de l'école. Là, on est en train d'étudier au niveau de la salle des fêtes, parce que c'est un chauffage qui consomme beaucoup, donc on est en train de revoir toute l'isolation de la salle des fêtes, le chauffage de la salle des fêtes. Ça va être un gros budget, je pense, au niveau de la commune. Là, on s'est rapproché aussi du parc naturel régional pour refaire, comme le village est assez attractif avec les chemins de randonnée, pour refaire les chemins de randonnée. Donc là, prochainement, normalement, on devrait intégrer le PNR pour revoir aussi le fleurissement du village, enfin, tout un tas de choses comme ça. Fleurissement pour essayer de ne pas consommer trop d'eau, de mettre les fleurs qui vont bien, on va dire, pour décorer la commune. Voilà.
Est-ce qu'il y a des gens qui s'installent dans la commune? Parce que avec le Covid, il y a des gens qui ne veulent plus être toujours en ville, veulent profiter d'un cadre de vie, d'une qualité de vie.
Oui, on a quelques constructions quand même qui sont en cours là. Et en fait, c'est des jeunes qui viennent à la campagne pour être un petit peu tranquilles. Pendant le Covid, c'est pareil, nous avions quelques Airbnb qui étaient occupés quand même. Hein. Voilà.
Simplement d'un mot, vie professionnelle, vie familiale, mère, c'est pas toujours facilement conciliable, mais vous y arrivez.
Oui, oui, on y arrive. Enfin, après, pour avoir pris la place de maire, on va dire, bon, on en a discuté quand même à la maison, hein. Voilà, parce que tout en sachant que c'était quand même pas mal de travail. Mais bon, c'est un vrai métier et c'est quand même assez passionnant et il faut être quand même à l'écoute des administrés. Et bon, ça ne me gêne pas du tout, ça c'est quand même assez agréable, on va dire. Voilà.
Eh bien, Cathy Nina, on a envie de vous poser la fameuse dernière question qu'on pose à tous les maires sur notre antenne. Êtes-vous une mère heureuse?
Oh oui, je pense que oui. Je pense que oui. Et puis j'espère que je fais bien mon métier, on va dire. Voilà.
Oui, vous êtes à l'écoute. Et puis c'est vrai que c'est un travail de terrain et que beaucoup d'élus disent... L'élu, le maire, c'est la plus belle finalement des missions qu'on nous confie par rapport à d'autres oui. Missions électives.
Ah oui, 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 ça c'est sûr. Et être près des habitants, c'est vraiment important. Voilà.
Cathy Nina, maire de Gernel, on aura l'occasion de vous retrouver. Vous êtes aussi conseillère départementale dans le département des Ardennes. Eh bien, j'espère qu'on va vous retrouver régulièrement sur l'antenne de RCF. Ça nous ferait bien plaisir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et à bientôt sur RCF.
Merci à vous. Au revoir.
Merci Cathy Nina, merci Jean-Pierre pour cette nouvelle commune que vous nous avez fait découvrir aujourd'hui. Et quand la pendule flirte avec les 18h30, c'est l'heure du journal régional sur RCF. « Les titres de ce vendredi 2 février, le service diocésain de la pastorale des jeunes propose aux confirmants du diocèse de Châlons un temps de réflexion qui vient compléter et enrichir la préparation à la confirmation déjà commencée en paroisse. Présentation. La 49e édition du Circuit des Ardennes se courera au mois d'avril. Présentation de l'épreuve qui mettra Sedan à l'honneur le dimanche et particulièrement son château qui fête ses 600 ans en 2024.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Suite aux annonces du Premier ministre Gabriel Attal, hier, les jeunes agriculteurs et la FNSEA ont demandé la levée des barrages. La circulation sur les principaux axes du territoire était en nette amélioration aujourd'hui. Les 3 et 4 février, les rendez-vous, c'est tout simplement ce week-end, samedi et dimanche, au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, auront lieu les 24 heures pour Dieu. Un temps fort spirituel destiné aux confirmants, collégiens et lycéens du diocèse de Châlons. Objectif, les encourager à vivre la vie chrétienne dans un engagement particulier et à faire se rencontrer entre jeunes du diocèse qui se préparent au baptême ou à la confirmation, comme nous l'explique Don Jérôme Elisabeth, vicaire à l'espace missionnaire Châlons et Champagne Sud et membre de la pastorale des jeunes.
24 heures pour Dieu, c'est un week-end qui a une histoire dans le diocèse de Châlons, qui était un week-end initialement pour susciter des vocations. Puis en fait, au fur et à mesure, qui s'est transformé en un week-end 24 heures donc pour Dieu, pour se préparer à la confirmation. Et donc c'est un rendez-vous obligatoire pour ces jeunes qui se préparent à cette démarche d'initiation chrétienne. Et le 4 février, le dimanche, ils recevront donc l'appel décisif, donc non pas de l'évêque, mais de son administrateur diocésain, le père Denis Véju, qui les appellera donc par leur prénom. Ils répondront « Me voici » et ils seront inscrits donc sur la liste de ceux qui seront baptisés dans l'année à Pâques 2024.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Topo, prière, célébration, jeu, vie fraternelle, un programme concocté par la pastorale des jeunes du diocèse de Châlons. Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF depuis 2019, a fait escale à Épernay ce matin. Il a été reçu par Franck Leroy, président du Grand Est, pour une séance de travail. Auparavant, ils ont visité le chantier de rénovation de la gare Sparnassienne. L'université de Reims-Champagne-Ardennes ouvre les portes de l'ensemble de ses campus ce samedi de 9h30 à 17h afin de permettre aux futurs étudiants et leurs familles de découvrir les filières dispensées, les locaux, mais aussi les services d'accompagnement des étudiants. Le programme complet est à découvrir sur www.univ-reims.fr/JPO. Aurélie, contre-civile, sous-préfète de Nogent-sur-Seine, a participé à la signature le 26 janvier dernier du volet sécurité de la convention Petite Ville de Demain entre la gendarmerie de l'Aube et la commune de Nogent-sur-Seine. Objectif, conforter la coopération pour la sécurité au quotidien des habitants de Nogent-sur-Seine. Il y a des rendez-vous qui se cochent dans le calendrier longtemps à l'avance. La célèbre course cycliste, le circuit des Ardennes, est de cela. Le parcours de la 49e édition a été dévoilé par les organisateurs. La course se fera sur 4 jours, les 4, 5, 6 et 7 avril, de Juniville au territoire d'Ardennes-Thiérache à Auvillé-les-Forges en passant par Charleville-Mézières pour une arrivée cette année à Sedan, une première. Maxime Villa, adjoint au sport à la ville de Sedan.
Une 4e étape en effet sedano-sedanaise, au pied du château fort. Voilà, nous fêterons les 600 ans du château fort. En beauté, j'ai envie de dire, avec cette arrivée du circuit des Ardennes, on partira des Douves, donc c'est-à-dire vraiment avec une vue imprenable sur le château fort, et une arrivée avenue Leclerc, à quelques mètres de la statue du maréchal Turenne qui observera le vainqueur de cette 49e édition du circuit des Ardennes. C'est vraiment extraordinaire. Là, le château a été mis en avant, monument préféré des Français. Ça va être une année aussi aux couleurs du château fort avec les 600 ans, plein d'animation dans la ville. Et ça sera là la première grande animation, une grande animation sportive au mois d'avril avec cette arrivée à Sedan, à quelques pas du château fort.
Une nouvelle fois, les meilleurs espoirs du cyclisme seront au départ de l'épreuve, un tracé préparé avec minutie par le directeur de l'épreuve, Loïc Horry.
C'est un tracé encore une fois inédit. On cherche tous les ans à renouveler l'offre qu'on va proposer aux coureurs et aux spectateurs aussi du circuit des Ardennes. Toujours 4 jours de course, 4 étapes, et avec cette année peut-être un profil un petit peu moins dur que les années précédentes, mais je pense 4 étapes très complètes, elles se complètent. Je pense que voilà, ce sera en l'occurrence un coureur complet qui s'imposera. Après 4 jours de course, il faudra être sprinter, il faudra être grimpeur, il faudra être rouleur. Voilà, faudra vraiment avoir le panel total du parfait coureur cycliste pour s'imposer au terme de la 49e édition.
Le détail de la course, jeudi 4 avril, Juny-Villasfeld, vendredi 5 avril, Auvillers-les-Forges, Ardoncel, samedi 6 avril, Charleville-Mézières, Aiglemont, dimanche 7 avril, Sedan, départ du Château-Fort, Sedan, une boucle donc qui ralliera une des villes sous-préfecture du département des Ardennes pour mettre à l'honneur, vous l'avez compris, plus particulièrement son Château-Fort. Et désormais, on passe à la page des sports collectifs avec l'agenda présenté par Sacha Lélez, notre stagiaire à la rédaction.
Ce soir, en basket, Chalon-Reims se rend à Évreux pour la 19e journée de Pro B. Le match commencera à 20h. Toujours en basket, en même temps, les Flammes Carolo affronteront Basketland pour la 15e journée de Ligue féminine. Demain, l'équipe féminine du Stade de Reims de foot affrontera l'équipe lyonnaise. C'est l'équipe de Reims qui se déplacera à Lyon pour ce match qui commencera à 14h30 pour la 13e journée de D1 Arkema. Le même jour, à 19h, Troyes reçoit Bordeaux au Stade de l'Aube pour la 23e journée de Ligue 2. Dimanche, l'équipe du Stade de Reims masculine, cette fois, recevra Toulouse à domicile au Stade Auguste Delaune pour la 20e journée de Ligue 1 à 15h. En volley, l'équipe de Chaumont affrontera l'équipe de Nice Volleyball pour la 18e journée de Ligue 1 masculine. Le match aura lieu à 19h au gymnase Jean Masson à Chaumont.
Merci Sacha, on vous remercie pour votre contribution tout au long de ces 3 jours. Et place à la météo, on voulait lui redonner un petit peu de travail. Alors ce vendredi, c'est Mélissa Tavares qui s'en charge. Bonsoir Mélissa, quelles sont les tendances en Champagne-Ardenne pour ce week-end ?
Ce week-end, le temps sera assez triste dans la totalité des départements de la Champagne-Ardenne. Ce samedi, le matin comme l'après-midi, le temps sera très nuageux tel qu'à Rethel, Reims et Bar-sur-Seine. En Haute-Marne, du brouillard sera attendu, en particulier à Langres. Les thermomètres afficheront au minimum les 7 degrés et au maximum les 11 degrés. Ce sera le même cas pour ce dimanche, toujours avec la présence des nuages dans les villes de Vouziers, Châlons-en-Champagne, Clairvaux et Saint-Dizier. Les mercures monteront au maximum jusqu'à 11 degrés. Samedi et dimanche, nous fêterons les Blaises et les Véroniques. Nous vous souhaitons une bonne fête à tous.
Merci Mélissa. Vous, on ne vous dit pas au revoir. Vous êtes de retour avec nous la semaine prochaine. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et nous prenons désormais la direction du sud-ouest Marnais dans cette deuxième partie d'émission afin de nous intéresser à l'actualité et au projet du Pays Brie Champagne avec son président Patrice Valentin au micro de notre correspondant RCF Cœur de Champagne, Christian Lanciot.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrice Valentin.
Bonjour Christian et bonjour aux auditeurs.
En ce début 2024, que peut-on formuler comme vœu pour votre ville, pour votre commune ?
Les vœux, ça va être simple. On va souhaiter la sérénité et puis le fait de continuer une animation sur notre commune qui satisfasse à la fois les habitants et les communes voisines, sachant qu'on est dans un périmètre intercommunal très large et qu'on est l'un des bourgs de service. Donc ça, c'est important pour tous, à la fois pour les structures locales et également pour la population. Si je reviens sur 2023, mais je vais le faire assez rapidement, puis ça nous permettra de projeter 2024, ça a été un gros chantier de rénovation de l'ensemble du cœur de ville. Alors, quand on touche au cœur, généralement, les chirurgiens le savent, c'est toujours quelque chose qui stresse. Et donc, il y a eu un peu de difficulté à vivre, je le reconnais, et nos commerçants s'en sont fait l'écho à juste titre. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on tourne cette page avec une place qui a repris son sens, place de village, place humaine, et non plus simple parking, et que chacun se l'approprie, y compris par les différentes animations que je souhaite que nous puissions développer. Mon conseil municipal et moi souhaitons que nous puissions développer sur le cours de cette année 2024. Reprendre la propriété de cette place par la population et aussi être attractif pour ceux qui croisent le village. Voilà, autrement, l'année 2024, on a vu une belle rénovation de notre collège qui commençait à dater. Le département a mis plus d'1 million d'euros pour refaire l'ensemble de ce qui était la protection énergétique du bâtiment et en réduire les consommations et puis leur donner un vrai coup de jeunesse. C'est une superbe opération que je souhaitais citer. Ça a été belles animations dans l'année, je n'en citerai qu'une, qui est la fête du livre, qui est un peu traditionnelle. On a plus de 10 ans maintenant d'expérience, qui a encore fait début octobre une belle une belle fréquentation, et puis on avait rénové nos fêtes de fin d'année, nos illuminations. Voilà pour 2023. Je passe à 2024 parce que je pense que c'est plus ce que je vais mettre en appétit qui peut être intéressant pour tous. 2024, on vient de reposer le campanile que nous avons fait complètement sur notre mairie. Il s'en suivra des travaux conséquents sur la couverture, mais ça fait partie de ce que vit chacun. On a un projet de crèche qui est maintenant plus qu'un projet, puisqu'on est sur les premières fondations sur le début de cette année pour une crèche qui devrait ouvrir au deuxième semestre 2025. C'est le vœu que nous formulons avec la communauté de communes. Un gros chantier sur l'assainissement des eaux usées Esternay. Après les réseaux, on en est à la reconstruction complète d'une station, donc projet lourd, là aussi financé par la communauté de communes dans le cadre de ses compétences, mais quelque part payé par l'ensemble des usagers de ce type de service-là. Un petit mot peut-être sur le pays, puisque là on est sur des opérations qui sont beaucoup plus spatiales et beaucoup plus larges que simplement la commune. On entame un deuxième programme de fonds européens leader. Le premier se termine, les derniers crédits sont à consommer. On aura à nouveau une enveloppe d'1 million d'euros sur les trois prochaines années pour des projets qui visent à renforcer le tissu de production locale, la relation à la production de fruits, de légumes, les circuits courts, le déplacement, les mobilités. Dire à côté qu'on a toujours une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui permet d'accompagner pour le maintien à domicile des plus âgés et des plus fragiles, mais également pour la réduction des consommations énergétiques avec les travaux qui peuvent être faits sur le bâti.
On revient un peu sur le programme Leader. C'est un fonds européen qui émane de l'agriculture.
Oui, c'est la partie effectivement d'un des piliers de la PAC, on va utiliser le terme généralement utilisé à ce niveau-là, qui est le soutien à la vie rurale autour du monde de l'agriculture, qui est en ce moment... Je ne dévoilerai rien en disant qu'on est sur une période un peu fragile pour l'ensemble de nos agriculteurs. Et si on l'est pour nos agriculteurs, on l'est sur notre consommation locale et notre consommation de proximité. Donc c'est un sujet sur lequel effectivement je souhaite que ceux qui sont au pouvoir de décision en France ou en Europe fassent les cheminements nécessaires pour arrêter de mettre la pression sur une profession qui vit au rythme des saisons et ne vit pas forcément au rythme des lois.
Merci Patrice Valentin et merci Christian pour ces découvertes, ces rencontres, toujours un plaisir.
Le 18-19 sur RCF.
Vous le savez, le vendredi, on retrouve en alternance avec Mgr Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, entretien avec Jean-Pierre.
Mgr Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous et bonjour à toutes.
Alors évidemment, le 2 février, c'est la présentation de Jésus au Temple, c'est aussi la Chandeleur, Monseigneur.
Oui, voilà, c'est un peu la fin du temps de Noël. Normalement, c'est le jour où on range sa crèche, pour ceux qui l'auraient laissé jusque-là. 40 jours après Noël, nous fêtons le moment où, sur l'évangile selon Saint-Luc, l'enfant Jésus a été porté par ses parents au Temple de Jérusalem. Voilà, il y avait chez les Juifs l'idée que le premier enfant mâle devait être racheté, en mémoire des Égyptiens, puisque au moment de la sortie d'Égypte, c'est au prix de la mort des premiers d'Égypte que Pharaon avait fini par céder et laisser partir Israël. Donc ça pèse comme une sorte de dette, toujours. Je trouve intéressant de se rappeler ce contexte de violence. Il y a beaucoup de violence dans l'histoire des hommes. La liberté parfois obtenue, au prix d'une certaine violence. La Bible n'a pas peur d'affronter cette réalité, mais elle nous ouvre l'espérance précisément qu'en cela, la mort de ses premiers-nés comme une sorte de dette qui va être prise sur lui par l'enfant Jésus.
Et la Chandeleur également, aujourd'hui.
Alors c'est février. La fin de l'hiver aussi, enfin c'est la fin d'hiver, c'est le commencement du moment où les jours rallongent, donc on se promène avec des lumières. Et normalement à la messe, on vient porter des cierges, c'est une manière de marquer notre espérance que la lumière brille. Ça rappelle la parole de Siméon accueillant l'enfant Jésus au temple, hein, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël son peuple. Et on fait des crêpes parce que la crêpe c'est comme un soleil qui déjà annonce que le printemps va venir.
Alors Monseigneur, dans l'actualité, on va y revenir dans un instant. On a beaucoup parlé, on vient d'entendre dans le flash, du problème agricole, de la mobilisation agricole. D'abord de façon générale, une remarque sur cette situation qui est en train d'évoluer d'ailleurs.
À la fois, c'était prévisible et imprévisible, comme souvent les mouvements d'agriculteurs. Moi, depuis que je suis arrivé dans le diocèse il y a 5 ans, il m'arrive quand même de rencontrer assez souvent des agriculteurs. Je suis impressionné par leur capacité de réflexion et de transformation, de réflexion sur leur métier, de réflexion sur leurs pratiques, et puis de transformation. Je trouve qu'ils ont beaucoup de courage. Je connais peu de professions où on s'interroge tellement sur ce que l'on fait, sur le sens de ce que l'on fait, sur la finalité de ce que l'on fait, et où on a accepté tant de transformations, de pratiques. Après, les agriculteurs ont l'impression de porter le poids un peu de toute la transition climatique, écologique, un peu à la place des autres. Nous autres consommateurs, et je me mets dedans, nous avons des attentes contradictoires. Nous voulons manger bio, mais nous voulons que ce soit pas cher. Nous voulons qu'on n'utilise pas de pesticides, mais nous voulons des fruits qui ressemblent à des fruits de magazine et non pas forcément des fruits réels. Donc il faut que cette transformation des mentalités soit accompagnée davantage pour qu'il y ait une sorte de rencontre, de phase entre les changements d'agriculture et nos attentes dites écologiques.
Alors c'est vrai que la question est française, mais pas seulement, bien évidemment, elle est européenne. Et justement, Monseigneur, on est en pleine actualité, vous revenez de la région de Wiesbaden, où vous avez participé hier, vous revenez hier soir.
Tout à fait, oui.
En Allemagne, vous avez participé à une rencontre européenne avec les épiscopats allemands et d'autres, autrichiens, je crois.
Voilà, il y avait la coutume, disons, que la présidence de la conférence épiscopale française rencontre chaque année, fin janvier, début février, la présidence allemande et la présidence suisse. Cette année, nous avons élargi aux Belges, aux Luxembourgeois, il n'y a qu'un seul archevêque, et puis aux Autrichiens, et c'était très intéressant. Et effectivement, nous avons en commun cette question agricole dans nos vieux pays européens, même si les modèles économiques, les modèles agricoles sont très différents. Il y a en Allemagne en particulier des fermes beaucoup plus grandes qui, dans des proportions qui nous paraissent un peu invraisemblables en France.
Et vous avez bien évidemment évoqué la question, Monseigneur. Vous avez échangé.
Oui, tout à fait. Nous avons échangé sur la question. Nous avons évoqué cela. Mais voilà, nous constatons que c'est chez les agriculteurs au premier chef que la transition écologique se vit ou doit se vivre. Et qu'ils sont pas toujours, ils sont un peu submergés de normes éventuellement contradictoires et pas toujours bien accompagnés, y compris par la société qui ne prend pas suffisamment en charge le temps nécessairement long des récoltes, de la semaille, des récoltes, etc. On ne transforme pas la nature comme on peut transformer un atelier.
Alors, Monseigneur, c'est vrai que si on regarde l'agenda, un rendez-vous important. La semaine prochaine avec des prêtres, de quoi s'agit-il exactement?
Voilà, dimanche soir avec 35 prêtres du diocèse, ce qui fait quand même une bonne partie, et plus de 100 prêtres de la province, et tous les évêques de la province, nous allons nous retrouver à Ars, et nous y passerons la semaine jusqu'à vendredi après-midi, pour une session de travail sur le sacrement de réconciliation, avec un peu deux objectifs à cette session, que nous comprenions mieux, nous, ce qu'est ce sacrement que nous célébrons. Qu'est-ce que nous faisons quand nous donnons le pardon du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on le donne? De quelle manière est-ce que ça se... Quel est le sens de ce sacrement? Et comment est-ce qu'on peut améliorer encore sa célébration? Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de gens qui ne se confessent plus, beaucoup de chrétiens qui ne se confessent pas beaucoup. Donc il faut en redonner le goût. C'est un grand trésor que de pouvoir distribuer le pardon du Seigneur. Et puis aussi parce que le dévoilement des abus, des violences dans l'Église a mis en cause un petit peu ce sacrement. D'abord parce que certains abuseurs en ont profité. Et ensuite parce que il y a une sorte de confiance qui a pu se perdre ou être abîmée. Donc il faut que nous travaillions pour mériter la confiance qui nous est faite.
Et pendant le carême, qui va s'ouvrir dans 12 jours, il va y avoir forcément ces célébrations de pardon, de toute façon.
Tout à fait. Donc il s'agit de se préparer à cela pour les vivre toujours mieux. Et avec le petit nombre de prêtres que nous sommes, il faut nous rendre disponibles pour donner ce sacrement, célébrer ce sacrement pour tous ceux et toutes celles qui viendront le demander.
Donc on va entrer en carême dans 12 jours, ce sera l'occasion d'ailleurs d'émissions un peu particulières sur RCF. Vous serez en direct, on peut l'annoncer, le matin à 7h, le jour des cendres. Et puis tout de suite après, on vous entendra dans l'émission 3 questions A avec Alexis Claudretz pour démarrer ce carême. Et ça veut dire aussi que vous allez démarrer un cycle de conférences, Monseigneur.
Oui, en tout cas, je vais continuer cette année les conférences de carême que j'ai commencé il y a 4 ans. Et l'idée cette année, c'était de parler de Jésus et l'Église. Pourquoi est-ce que le Christ a voulu l'Église? Qu'est-ce que doit faire quelle est la mission de l'Église? Et quelle est sa mission dans ce monde en transformation qui est le nôtre?
Alors, les rendez-vous, c'est le vendredi, tous les vendredis de carême, juste après les cendres. Alors, les cendres, c'est le mercredi 14, donc c'est le vendredi 16 au soir, c'est à 20h, c'est à la Maison Notre-Dame, à la cathédrale. Et puis, retransmission sur YouTube et sur RCF, on pourra vivre cette conférence le mardi suivant à partir de 19h30 jusqu'à 20h30 pour une émission régulière toutes les semaines. C'est un temps vraiment particulier, ce temps de carême qui invite le diocèse tout entier à vivre cette conversion. C'est pas toujours facile, hein.
Je sais pas si c'est toujours, pas toujours facile, mais la conversion, c'est toujours, justement, il s'agit de se transformer ou de se laisser transformer. Ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est le fait que dans le carême, nous accompagnons tous les catéchumènes, ceux qui se préparent à être baptisés dans la nuit de Pâques. Ils seront plus de 70 cette année dans notre diocèse, qui est une grande joie. Je les rencontre avec l'équipe du catéchuménat ce samedi. Nous avons donc une rencontre, on avait déjà eu une fin novembre. Là, il s'agit de préparer ce qu'on appelle l'appel décisif qui a lieu le premier dimanche de carême, qui aura lieu cette année à Tinqueux. Et nous, il s'agit d'appeler les catéchumènes à se préparer au baptême. Parce que cette demande du baptême, elle vient d'un chemin personnel, évidemment, et d'un choix personnel, mais dans lequel nous reconnaissons aussi un appel de Dieu plus intime de chacun. Et c'est ce qu'il s'agit de manifester. Et il faut que toute l'Église, nous tous, les vieux chrétiens, en quelque sorte, nous préparions, nous disposions à recevoir ces nouveaux chrétiens. Et il faut pour ça que l'Église soit plus belle, plus pure, plus davantage l'Église de Jésus.
Merci, Monseigneur. Merci, Jean-Pierre.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Ce vendredi 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides. Eh bien, dans la foulée de cette journée spéciale, la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardennes propose une série de rendez-vous dans les zones humides, ces milieux qui nous rendent tant de services et nous permettent aussi de nous ressourcer tout en renouant avec la nature. Pour nous en parler, Sylvie Devam, responsable de la vie associative à la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardennes, en ligne avec Christopher Fausten.
Bonjour Sylvie Devasme.
Bonjour Christopher Fausten.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. Avant d'évoquer les différentes activités que vous proposez autour de cette journée mondiale des zones humides, comment définir, Sylvie Devasme, une zone humide ?
Une zone humide, c'est un milieu naturel ou semi-naturel où l'eau est présente une bonne partie de l'année. Alors, qu'elle soit visible comme dans les fossés, les étangs, les lacs, les cours d'eau, ou qu'elle soit complètement invisible, comme par exemple dans certaines prairies, certains bois alluviaux, dits alluviaux, qui longent les cours d'eau, par exemple. Donc, ces zones humides, elles abritent des espèces végétales et animales vraiment caractéristiques qu'on ne trouve pas dans les autres milieux.
Quelles sont les zones humides qu'on retrouve dans notre territoire Champagne-Ardennes, Sylvie Devasme ?
Alors, en Champagne-Ardennes, vous savez, on a toute une région naturelle qui se nomme la Champagne humide, qui a des caractéristiques de sol qui retiennent l'eau, hein, ce sont des argiles. Et donc, c'est là où on va retrouver les plans d'eau les plus connus, les lacs de la forêt d'Orient, lac du Der, qui sont des lacs artificiels, oui, mais aussi des étangs, comme l'étang de Belleval, par exemple. Et on a beaucoup de zones naturelles bien connues et on a aussi en Champagne crayeuse, dite crayeuse, des zones humides où par exemple le long des cours d'eau ou lorsque les nappes souterraines affleurent, vont se créer des milieux très particuliers.
Alors du 4 au 29 février, les animateurs de la LPO Champagne-Ardennes proposent plusieurs activités autour de cette journée mondiale des zones humides. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le but exact de ces différentes activités ?
Alors, le but, c'est de reconnecter le public à ces milieux vraiment très intéressants que sont les zones humides. Intéressants pour nous, parce qu'ils nous aident à prévenir les sécheresses ou les crues. Ils aident aussi à épurer les eaux souterraines dans lesquelles nous puisons pour nous alimenter en eau. Ce sont des milieux qui apportent une fertilité à la terre et qui donc nous permettent de produire beaucoup d'aliments. Hein. Si par exemple les maraîchers s'appellent maraîchers, c'est parce que à l'origine ils exerçaient leur profession dans des zones marécageuses. Et puis, ce sont des grands réservoirs de biodiversité. Vous savez que la biodiversité, aujourd'hui, est mal en point. On peut même dire qu'elle, oui, s'effondre. Et malgré toutes les actions mises en place pour la préserver, elle continue de s'effondrer. Et donc, les zones humides sont vraiment un atout pour cette protection et il convient de les protéger à leur tour.
Autour du thème « Les zones humides et le bien-être humain », Sylvie Devasme, quelles sont les activités que propose la LPO Champagne-Ardennes ?
Alors, nous proposons 5 sorties. La première a lieu dimanche prochain, le 4 février, sur les lacs de la forêt d'Orient. Et là, vous avez un animateur vraiment reconnu qui exerce depuis de nombreuses années, Bernard Vacheret, qui va faire découvrir les richesses naturelles des lacs. Voilà. Ensuite, nous allons le 17 février accueillir le public sur la réserve naturelle régionale de l'Arzicourt, non loin du lac du Der, avec Émeric Mionnet, qui est conservateur de cette réserve et qui, lui aussi, fera découvrir toutes les richesses naturelles de la réserve, mais aussi de la vallée de la Marne, qui est toute proche. Le 17 février, toujours, nous vous accueillerons sur l'étang, la réserve régionale des étangs de Belleval en Argonne. Et là, c'est Rémi Anotel qui vous accueillera et vous fera découvrir ce milieu exceptionnel des étangs de Belleval. Et puis, on a encore un autre rendez-vous à Damery le 25 février, le dimanche 25 février, avec Vincent Héret. Alors là, on est sur la Marne, les méandres de la Marne, dans un pays viticole. Et donc, vous avez une petite oasis de biodiversité dans ces boucles de la Marne. Et puis, nous terminerons notre programme Journée mondiale des zones humides avec une rencontre dans les locaux de la LPO, d'Air Nature, à Outine. Donc, c'est le mercredi 28 février. Et nous allons projeter un film... Le petit monde de Lucas, un film de François Bréau, voilà, qui nous fait suivre la passion d'un jeune homme pour la faune sauvage des zones humides, et particulièrement sur les lacs de la forêt d'Orient. Donc c'est un jeune photographe, Lucas Carré, qui a été suivi dans ce film qui dure une cinquantaine de minutes. Et ensuite, nous irons sur les sentiers de la réserve des étangs d'Outine, pour nous mettre un peu dans la peau d'un photographe et relever des défis qui nous permettront de renouer avec la nature très particulière de ces zones humides.
Alors on est du côté de la LPO, du côté de Damery, de l'Argonne, de l'Arzicourt dans le pays vitrien. Ces différentes activités que vous proposez, Sylvie Devasme, est-ce qu'il faut s'inscrire en amont ?
Alors oui, c'est indispensable parce que pour éviter d'avoir des groupes trop importants, hein, parce que pour découvrir la nature, il vaut mieux ne pas être trop nombreux. Voilà, nous avons fixé un petit peu des limites. Bon, pour certaines sorties, nous pouvons accueillir une vingtaine de personnes, pour d'autres une trentaine. Ces inscriptions, elles se font sur le site J'agis pour la nature de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et donc, vous créez un compte sur ce site et vous pouvez ensuite vous inscrire à toutes les animations qui sont organisées dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides. Et puis ensuite, vous serez invité régulièrement, si vous vous inscrivez sur ce site, à participer à d'autres actions pour préserver la nature, que ce soit des chantiers de nature, des sorties, des visites. Voilà.
Sylvie Devasme, responsable de la vie associative à la LPO Champagne-Ardenne, Ligue pour la protection des oiseaux, avec nous en ligne sur RCF. Chaque fin de mois de janvier, la Ligue pour la protection des oiseaux se livre à un comptage des oiseaux. Quel retour faites-vous concernant notre territoire Champagne-Ardenne ?
Eh bien, en fait, c'est vrai que le comptage a eu lieu samedi et dimanche dernier. Voilà, j'ai été jeter un petit coup d'œil sur la plateforme Oiseaux des Jardins qui permet de découvrir toutes les observations qui ont été faites à travers toute la France. Et donc, on peut constater qu'il y a eu une belle participation. Oui. Mais pour l'instant, les chiffres exacts ne sont pas encore connus. Voilà.
Avant de nous quitter, Sylvie Devasme, quels sont les événements à venir de la LPO Champagne-Ardenne ?
Alors, on organise des sorties tous les mois. Hein, donc, j'invite les auditeurs de RCF à aller sur notre site internet, sur la rubrique agenda. Et là, vous allez trouver des sorties pour apprendre à reconnaître les chants d'oiseaux, des sorties pour compter les oiseaux sur les grandes étendues d'eau, des chantiers nature. Voilà, on a beaucoup d'activités prévues. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site pour prendre connaissance.
lpo.fr/Champagne-Ardenne, où on retrouve directement le territoire Champagne-Ardenne,
oui,
sur le site.
C'est ça.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Sylvie Devasme, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, responsable de la vie associative à la LPO Champagne-Ardenne. À très bientôt.
À bientôt. Merci, Christopher.
Les 5 activités sont présentées sur le site J'agis pour la nature, mais il est également possible de s'y inscrire en contactant directement les animateurs ou la Ligue de protection Champagne-Ardenne. Voilà pour les derniers rendez-vous à vous présenter cette semaine. Évidemment, le magazine régional revient la semaine prochaine, dès lundi, 18h10. Un grand merci pour votre fidélité et on vous dit à lundi. Prenez soin de vous.